drôle d'histoire. Lolita.
Bonsoir tout le monde. Au programme de cette émission, d'abord un hommage à Elizabeth Taylor, puis quelques digressions sur le mariage, ensuite une histoire d'amour et de couple mis à mal par la maladie, et pour finir, la quête d'une femme à la recherche de l'homme idéal. Et pour vous la faire cette émission, on s'y est mis à trois nanas, trois gonzesses, trois nénettes, puisque j'ai avec moi Françoise Rochat qui est toujours en régie et Nathalie Schoenberg qui est à la programmation musicale. Par contre, la première chanson qu'on vous propose est chantée par un garçon, c'est Vincent Delerme qui chante que tous les acteurs s'appellent Terence. Une chanson qui nous entraîne au cinéma. D'ailleurs, ça commence un peu comme le générique d'un film, un film des années 50, Hollywood après-guerre, tu vois. Un peu l'époque, l'ambiance.
Tous les acteurs s'appellent Terence. Tu vois un peu l'époque, l'ambiance. Hollywood après-guerre, piscine, bref, tu vois. 40 ans, les maquilleuses diront la période fabuleuse. On travaillait, on s'amusait à la fois. Sous-titres et les documentaires témoigneront les costumières. Jamais je n'avais vu un talent comme ça. Pour l'instant, il est arrivé. La chemise froissée, le miroir de la loge a volé en éclats. Toutes les actrices s'appellent Betty. Tu vois le topo dans les taxis. Le télégramme, la peur de filer un bas. Dans 40 ans, les deuxièmes rôles. Comme vous n'imaginez pas. Elle arrivait tôt le matin. Oh, elle avait ce petit chien. Jamais de ma vie je n'ai vu comme ça. Pour l'instant elle est enfermée. Le whisky et les comprimés. La compagnie d'assurance n'apprécie pas. Les témoins seront filmés, des fleurs dans un vase à côté, ultraviolet, botox, teinture dans les cheveux. Je ne sais plus où on devait en être, à la 60e prise peut-être, j'entends encore sa voix, bonne soirée messieurs. Une vie entièrement consacrée. À l'anecdote du canapé, l'histoire du peignoir bleu 3200 fois. Tous les acteurs s'appellent Terence. Quelques personnes ont eu la chance de les voir de tout près et de ne plus vivre après ça.
C'était une actrice née en Angleterre, mais qui a fait carrière aux États-Unis. Elle avait des yeux, mais d'une couleur incroyable, une espèce de bleu-violet, Elle a été considérée longtemps comme une des plus belles femmes du monde. Elle a été mariée 8 fois, dont 2 fois avec le même homme. Elle était très engagée dans la lutte contre le sida, mais elle participait aussi à d'autres nobles causes. Par exemple, en 2005, lorsque le typhon Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans, eh bien, elle a offert à la ville un dispensaire médical. Cette femme exceptionnelle, c'est Elizabeth Taylor, décédée le 23 mars dernier, à l'âge de 79 ans. Ce soir, on va parler d'elle, mais pas tellement de l'actrice, plutôt de la femme amoureuse, la femme qui a vécu surtout une immense et intense histoire d'amour avec un autre monstre sacré, Richard Burton. Taylor et Burton, une tigresse et un lion, à la fois inconciliables et inséparables. Elizabeth Taylor voit le jour à Londres en février 1932 de parents américains. Son père est collectionneur d'art et sa mère comédienne. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la famille Taylor décide de retourner vivre en Amérique et s'installe à Los Angeles. Là, la petite Elizabeth, qu'on surnomme Liz, prend des cours de danse et de théâtre, poussée en cela par sa maman qui voudrait bien que sa fille devienne la célèbre actrice qu'elle-même aurait tellement aimé devenir. À 10 ans, Liz, qui est déjà ravissante et qui a déjà un véritable talent pour jouer la comédie, eh bien elle est remarquée par un agent de la Metro-Goldwyn-Mayer. Il lui fait signer son premier contrat au cinéma et l'engage pour tourner dans un épisode du feuilleton La six chiens fidèles. Ensuite, elle enchaîne avec 2 films un peu mièvres, mais la prestation de cette gamine est tellement remarquable qu'elle est surnommée par les critiques la nouvelle Shirley Temple. Il faut dire qu'à cette époque, dans le cinéma américain, la mode est aux gamines actrices, genre justement Shirley Temple, mais comme celle-ci a grandi, Liz devient en quelque sorte sa remplaçante. En 1944, alors qu'elle a 12 ans, la petite Liz Taylor obtient son statut de vedette en donnant la réplique à Mickey Rooney dans un film intitulé National Velvet, un film qui fait un véritable tabac et rapporte plus de 5 millions de dollars de recettes. Mais si 1944 marque le début de la carrière cinématographique de Liz, c'est aussi l'année où ses parents divorcent. Pour la toute jeune fille, cette séparation est un drame et elle en veut beaucoup à son père, d'une part parce que c'est lui qui a demandé le divorce et d'autre part parce qu'il s'en va pour vivre avec un homme. Eh oui, et ça, la petite Liz a énormément de peine à l'accepter. Un peu plus tard, à l'adolescence, Liz se met à chercher parmi ses partenaires masculins de cinéma un père de substitution. Puis à 16 ans, elle tombe amoureuse du bel acteur Montgomery Cliff, mais hélas pour elle, pareil en cela à son père, la préférence du beau Montgomery va au garçon. En 1948, alors qu'elle n'a que 17 ans, Liz se marie avec Nicolas Hilton, l'héritier des hôtels Hilton. L'arrière-grand-père de cette insupportable Paris Hilton dont on nous bassine aujourd'hui. Remarquez que Nicolas Hilton devait être aussi assez insupportable puisque Liz n'a été mariée avec lui que 2 ans et elle l'a quitté parce qu'il était fou, disait-elle, et surtout qu'il lui tapait dessus. Ensuite, elle se remarie rapidement et épouse cette fois Michael Wilding, un acteur anglais d'une quarantaine d'années. Mais c'est pas ça non plus. Lise trouve que ce deuxième mari est trop doux, trop calme, trop gentil, et en parlant de lui, elle dit, et je la cite, « Il me donne l'impression de vivre avec un légume. » Du coup, deuxième divorce. On est alors en 1955, l'année où Liz Taylor tourne « Géant », film sublime avec James Dean, acteur non moins sublime. Cet acteur, eh bien, il fascine complètement Liz et devient son ami. Mais le film n'est pas tout à fait terminé quand James Dean meurt brutalement à 200 à l'heure au volant de sa Porsche. Liz en fait une dépression et puis elle se console dans les bras d'un producteur nommé Mike Todd. Il a une tête de brute, vraiment, mais celui-là, alors c'est le roi des bons types. Mike et Liz s'adorent. Mais faut croire que la jeune femme est maudite, puisque quelques mois après leur mariage, Mike Todd trouve la mort dans un accident d'avion. Quand on apprend la terrible nouvelle à Liz, elle devient folle de douleur et il faut, paraît-il, 3 hommes pour parvenir à la maîtriser et pour l'empêcher de se tuer. Désespérée, la belle actrice se jette alors à corps perdu dans son métier et elle tourne La chatte sur un toit brûlant, d'après le roman de Tennessee Williams, où elle est mais absolument formidable. Dans ce film, Liz Taylor est d'une beauté incroyable. Elle éclipse ses partenaires, on ne voit qu'elle, elle prend toute la lumière, et pourtant elle traverse à ce moment-là la plus sombre période de sa vie. Elle est sous antidépresseur, elle souffre à en crever parce qu'elle vient de perdre l'homme qu'elle adorait. Mais c'est sans doute ce drame personnel qui lui donne à l'écran à la fois une profondeur, une sensibilité, une douceur et une gravité que personnellement je trouve mais totalement bouleversante. En 1957, ne supportant plus la solitude, Liz se cherche un nouveau compagnon et son choix se porte sur le chanteur Eddie Fisher. Il est marié, mais il va divorcer pour elle et provoquer du même coup un scandale. En effet, l'organe officiel du Vatican fustige le couple et accuse Elizabeth Taylor de vagabondage érotique. Mais Liz, elle se moque bien des bien-pensants et du courroux de l'église et elle épouse son chanteur, qui devient donc son 4e mari. 3 années se passent et puis en 1960, la Fox propose à l'actrice d'incarner au cinéma Cléopâtre, la reine d'Égypte. Et c'est sur le tournage de ce film qu'elle va rencontrer un certain Richard Burton. À cette époque, la carrière de Burton est au plus bas. Il a enchaîné beaucoup de navets et on le considère comme un acteur de seconde zone, presque un loser. Le tournage du film Cléopâtre débute en 1961. Richard Burton, n'ayant plus du tout la cote dans le monde du cinéma, il touche pour ce film un cachet mais dérisoire. Par contre, celui de Liz est pharaonique. En effet, pour jouer Cléopâtre, Elizabeth Taylor demande et obtient $1 million. Et à cette époque-là, c'est la plus grosse somme jamais octroyée à une actrice. Le tournage de Cléopâtre démarre en Angleterre au mois de septembre. Mais en septembre 1961, eh bien, il fait un temps épouvantable au Royaume-Uni. On est très loin, mais alors vraiment très très loin du climat égyptien. Il pleut sans discontinuer, il fait aussi un froid glacial, donc tous les acteurs tombent malades les uns après les autres. Liz, comme ses partenaires, attrape un gros rhume, puis elle se met à tousser de plus en plus fort. On détecte une pneumonie et il faut l'hospitaliser d'urgence. Son état est gravissime, le processus vital est engagé et on la sauve de justesse après avoir dû pratiquer une trachéotomie. Le tournage du film est bien sûr arrêté durant plusieurs mois, et puis il reprend enfin à Rome, sous des cieux plus cléments, et avec aussi un nouveau réalisateur, parce que le premier a fait une crise de nerfs. Mais le second réalisateur de Cléopâtre, Joseph Mankiewicz, eh bien, il va lui aussi connaître bien des déboires et se faire pas mal de cheveux blonds. C'est à croire que la malédiction des pharaons s'est abattue sur ce film, car rien ne va jamais, la moindre scène est compliquée à tourner, les problèmes ne cessent de s'accumuler, le budget explose et le tournage de Cléopâtre devient un véritable gouffre financier. En plus, pour ne rien arranger, les deux acteurs principaux, Liz Taylor et Richard Burton, entament une liaison jugée scandaleuse par les médias italiens puisqu'ils sont tous les deux mariés. Mankiewicz, exaspéré par les journalistes qui affluent de partout pour tenter de prendre des photos du couple Taylor-Burton, donne une conférence de presse où il pète carrément un plomb parce qu'il déclare qu'en fait c'est lui qui a une liaison avec Richard Burton. Nouveau scandale, tollé et pagaille générale, c'est le champ de foire, c'est le grand n'importe quoi. Au milieu de tout ce bazar, les seuls à rester impassibles et à garder leur calme, c'est Cléopâtre et Marc-Antoine, alias Liz et Richard. Totalement subjugués l'un par l'autre, ils se fichaient perdument de ce qui se passe autour d'eux. Dès les premières scènes qu'ils tournent ensemble, ils s'embrassent si volontiers et si durablement que le réalisateur s'époumonne en vain à crier « coupez ». D'abord, à mon cachet, le couple affiche bientôt son amour au grand jour. Mais si Liz est prête à divorcer pour épouser Richard Burton, ce dernier hésite à quitter sa femme, prénommée Sibyl. Pour le contraindre à prendre une décision, Liz avale un tube de barbiturique et Sibyl en fait autant juste après. Le combat entre ces deux femmes dure 2 ans et c'est finalement Liz Taylor qui gagne puisqu'en 1964, elle parvient enfin à se faire épouser par Richard Burton. Burton qui, pour oublier les cris, les menaces, les larmes et les chantages au suicide des deux furies qui se disputent sa petite personne, eh bien Burton y s'est mis à picoler de plus en plus. Mariés en 1964, Liz Taylor et Richard Burton vont vivre 10 années d'une liaison tapageuse qui sera suivie par le monde entier. Réunis au cinéma dans une 12aine de productions, ils rejouent souvent à l'écran ce qu'ils vivent dans le quotidien. Par exemple, dans La mégère apprivoisée ou dans Qui a peur de Virginia Woolf, ils incarnent un couple qui s'adore autant qu'ils se détestent et qui s'aime autant qu'ils se déchirent. C'est comme dans la vie, quoi. C'est presque plus du cinéma. Divorcés en 1974, Liz Taylor et Richard Burton se remarieront en 1975 avant de redivorcer 16 mois plus tard. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur vie commune n'était pas pion-pion et même définitivement séparée, ces deux amants terribles sont restés liés par des liens invisibles et indestructibles. Richard Burton, il est mort en Suisse, à Genève, en 1984. Il avait 58 ans quand il a été emporté par une hémorragie cérébrale et il est enterré dans le cimetière de Céligny. Quant à Elizabeth Taylor, après Richard Burton, elle a eu encore 2 autres maris, un sénateur républicain et puis un ouvrier en bâtiment. Et l'année dernière, elle évoquait encore la possibilité de convoler une 9e fois. Elle songeait à épouser son impresario, de 30 ans son cadet, Mais ce mariage n'a finalement pas eu lieu. Durant les dernières années de sa vie, malgré d'énormes problèmes de santé, la star aux yeux violets, celle qui fut la plus jolie femme du monde, a consacré tout ce qui lui restait d'énergie et d'argent à la lutte contre le sida. Et puis on l'a dit, en 2005, le jour même de son 74e anniversaire, c'est elle qui a offert des cadeaux aux autres, puisqu'elle a donné à la Nouvelle-Orléans une unité médicale mobile de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et cette installation médicale de pointe a remplacé l'un des vieux dispensaires détruits par le cyclone Katrina. Lise Taylor, qui s'est donc éteinte le 23 mars dernier, restera à jamais une des plus grandes stars du cinéma américain. Peu de temps avant son décès, un journaliste qui lui avait demandé ce qu'elle pensait de sa vie et de sa carrière, elle avait simplement répondu qu'elle était heureuse d'avoir traversé autant d'orages dans son existence sans jamais être foudroyée, en étant toujours capable de se relever. Et elle avait déclaré aussi qu'elle avait toujours follement aimé et avait été également passionnément aimée, et que c'était là, dans le fond, la seule chose qui comptait vraiment. Et puis pour terminer, j'aimerais encore vous citer cette jolie phrase de Richard Burton qui disait que s'il a offert autant de diamants à Liz Taylor, c'est d'abord parce qu'elle était elle-même un trésor, et qu'ensuite, étant fils d'un ouvrier qui travaillait dans des mines, fils de mineurs, il se sentait proche des diamants parce que les diamants sont des morceaux de charbon qui ont su s'en sortir.
Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. Just can't hold on, I feel
après la vie d'Elizabeth Taylor, on n'a pas résisté à l'envie de mettre une chanson de Michael Jackson, celui qui fut bien sûr son grand ami et qu'elle vient de rejoindre au paradis des artistes. Changement d'ambiance, d'époque et de style avec ce titre à la fois plein de douceur et d'ironie du très jeune Thomas Dutronc qui chante « Jeune, je ne savais rien ».
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content. Surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content. Sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on n'a plus le temps. On a des cheveux blancs et l'angoisse de la rouille. Mais de l'amour pour son facteur.
Comme ça pour rien.
Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Je me suis réveillé ce matin dans tes bras. Comme ça pour rien, j'étais content. J'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare. Comme ça pour rien, j'étais content. Surpris d'avoir autant d'espoir. J'en ai soupé, et vous aussi. Bien sûr, on a plus 20 ans. On a des cheveux blancs et l'angoisse de la voix. Mais de l'amour pour son facteur.
Comme ça, pour rien.
Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. J'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié.
J'ai changé tout d'un coup.
Et un bonjour. J'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié.
On a débuté avec l'histoire d'amour entre Liz Taylor et Richard Burton, un couple à la fois inconciliable et inséparable, un homme et une femme qui se sont mariés une première fois avant de divorcer, de se remarier ensemble puis de redivorcer. Je vous propose maintenant quelques digressions à propos justement des couples et du mariage. Selon une étude très sérieuse et très approfondie effectuée dernièrement, si les femmes ont une longévité supérieure aux hommes, ceux-ci peuvent espérer vivre plus longtemps s'ils sont en couple. En effet, pour un homme de 40 ans n'ayant jamais connu la vie commune, les risques de décès sont deux fois supérieurs à ceux encourus par un homme du même âge, mais en couple. Il semblerait donc que le mariage soit particulièrement bénéfique pour la santé des messieurs. Ce mot « mariage », eh bien, il a une racine latine qui vient du terme « mari » signifiant « mâle ». L'origine de cette union de deux êtres est donc masculine, et pendant fort longtemps, la femme n'y prenait aucune part. Une jeune fille était mariée par son père à un homme, la tutelle de cette jeune fille passait donc du père au mari. D'ailleurs, dans le verbe « marier », on retrouve également une notion de tutorat, puisque ce verbe dérive du latin « maritare », un verbe employé durant des siècles dans l'arboriculture. Maritandae sunt arbores signifie qu'on doit attacher les arbres à un tuteur. Se marier, c'est donc se lier à quelqu'un de solide qui nous servira de tuteur. Le record des mariés les plus âgés est détenu par un couple français, François Fernandez et Madeleine Francineau, qui ont passé devant le maire en février 2002, et le jour de leur union, ils avaient respectivement 96 et 94 ans. C'est mignon. Quant au mariage le plus long, il est indien. Monsieur et Madame Temulji Bijavi Nariman furent mariés 87 ans, de 1853 à 1940. La mariée était en noir, c'est bien sûr le titre d'un polar écrit dans les années 50 par l'américain William Irish, polar adapté au cinéma en 1968 par François Truffaut. Mais jusqu'au début du XXe siècle, la grande majorité des mariées étaient effectivement en noir. Tout au moins portaient-elles des robes sombres, dans des tons gris foncé, bleu foncé ou brun. C'est que, par souci d'économie, la robe de la mariée devait lui faire encore usage après la cérémonie, dans sa vie de tous les jours. Donc il ne fallait pas que cette robe soit d'une couleur salissante. Ce n'est qu'autour des années 20 et l'affirmation des valeurs bourgeoises que les robes blanches, couleur de la pureté, firent leur apparition chez les jeunes filles de bonne famille. La virginité de la jeune fille devait être indiscutable, d'où cette symbolique blancheur. Et puis pour terminer, je voudrais encore vous parler de Maître Albert. Maître Albert qui était un sorcier du Moyen-Âge, qui se disait philosophe et expert en chimie et en sciences de la nature. Et ce Maître Albert avait la réputation de connaître mille et un secrets pour aider les couples en difficulté. Par exemple, pour venir en aide à des maris désirant s'assurer de la fidélité de leur épouse, Maître Albert avait écrit cette curieuse recette. Les hommes qui sont obligés de s'absenter pour longtemps de leur maison et qui ont des femmes suspectes pourront, par mesure de sécurité, pratiquer ce qui suit. Il faut prendre un peu de cheveux de la femme et les couper menus comme poussière. Puis, ayant enduit le membre viril avec un peu de bon miel et jeter la poudre de cheveux dessus, on procédera à l'acte de sexe avec la femme et elle aura ensuite un grand dégoût pour le dit acte. Si le mari veut la faire revenir de ce dégoût, qu'il prenne de ses propres cheveux, qu'il les coupe en poussière comme il a fait de ceux de sa femme, et après avoir oint son membre viril avec du miel et de la civette, et l'avoir saupoudré de ses cheveux, il procédera à l'acte avec consentement de la femme. Et puis il est aussi un moyen de rendre sage une épouse en prenant, paraît-il, un poil des parties génitales d'un loup, un poil de ses yeux et un poil de sa gueule. C'est toujours une recette de Maître Albert. Donc vous prenez un poil des parties génitales d'un loup, un poil de ses yeux, un poil de sa gueule. Vous réduisez cela en poudre par calcination et vous le faites avaler à l'épouse sans qu'elle le sache. Et l'on pourra, d'après Maître Albert, être assuré ainsi de sa fidélité.
Mes rêves, vous m'avez.
La voix magique et féerique de Brisa Rocher qui reprenait à sa façon une chanson de Claude François « Au coin de mes rêves ». Après avoir évoqué de façon légère les thèmes du couple et du mariage, on va se faire un peu plus grave avec deux très beaux poèmes écrits par une dame à l'époque où les médecins ont découvert que son mari souffrait d'un cancer. Cette dame, c'est la romancière et poétesse Catherine Gaillard-Sarron, une franc-comtoise vaudoise par alliance et qui vit actuellement à Chamblon. Auteur de plusieurs recueils de poèmes et de nouvelles, Catherine Gaillard-Sarron a notamment publié aux éditions du Mandrier un très bel ouvrage intitulé « Tremblement de cœur », un recueil de poèmes qui lui ont été inspirés par la maladie de son mari adoré. Dire ou ne pas dire? Le dire, mais à qui, quand et comment? La peur et les angoisses face à la maladie hantent chacun de nous lorsqu'elle fait son entrée. Mais qu'il est difficile d'en parler simplement quand les regards inquiets s'esquivent aux moindres mots. Une étrange pudeur, ou serait-ce une gêne, s'installe chaque fois qu'on voudrait en parler. Et chacun maladroit, craignant de l'évoquer, se dandine sans fin, troublé par l'anxiété. Le dire, mais à qui et comment? Quand tout autour de vous, fermé comme des huîtres, nul ne veut recevoir la souffrance des autres. Quand la peur du cancer les épouvante tant qu'ils fuient à votre approche, tremblant de l'attraper, alors on abandonne. Puisqu'on ne peut les dire, tous ces mots, au papier, qui sait les accueillir, et dans la solitude de son cœur déchiré, le tourment en transcende grâce à la poésie. Bord dangereux. Ne pas penser à la mort, ne pas s'approcher du bord, résister à l'attraction qui me tire vers le bas, résister à la pulsion qui me pousse dans ses bras, me soustraire à son emprise qui lentement m'hypnotise, lutter contre ce vertige qui m'étourdit et me fige, rompre la fascination qui mène à la destruction. Ne pas penser à la mort, à sa mort, ne pas s'approcher du bord, réprimer cette attirance pour le vide et le néant, s'arracher à la béance pour rester dans le présent. Avancer sans y penser pour garder mon équilibre, avancer la tête libre malgré la peur de tomber, les yeux tournés vers les cimes afin d'oublier l'abîme. Ne pas penser à la mort, ne pas s'approcher du bord, longer le trottoir des jours en regardant devant moi et m'en tenir à l'amour. Pour ne pas faire de faux pas.
I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is last. Tell the world I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere?
I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be? Just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavement?
Chasing Pavements, par une chanteuse qui a choisi d'utiliser juste son prénom comme nom d'artiste, c'était Adèle. Ce soir, dans cette émission, on a beaucoup parlé de couple, et même si la vie de couple n'est pas facile, même si c'est dur parfois, souvent, de vivre à deux, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est plus simple de vivre seul? Alors ça, comptez pas sur moi pour esquisser même l'ombre d'une réponse. Toujours est-il que dans la dernière drôle d'histoire que je vous ai choisie, l'héroïne, qui est aussi la narratrice, est une dame seule qui voudrait vivre avec un monsieur. Tirée du livre « Pour en finir avec les hommes et la choucroute » de la romancière française Sophie Loumbière, voici quelques extraits des pensées de cette femme qui en a marre de la solitude et qui rêve de partager son existence avec un monsieur qu'elle rêve proche de l'homme idéal. On peut rêver. Mais comment faut-il m'y prendre pour te rencontrer? Où vais-je avoir la chance de croiser ton chemin? Dans quel quartier, quelle ville, quel pays? Quels sont les endroits les plus appropriés à notre rencontre? Je te cherche, je ne trouve rien. J'ouvre les yeux grands, mais aucune trace de toi. Tu es de nulle part et je suis de partout ailleurs. Où es-tu, celui que j'aime, que j'aimerais aimer, que je porte dans mon cœur depuis le jour de ma naissance? Et toi, l'homme idéal, t'es pas libre pour l'instant? Mais si c'est ça, dis-le tout de suite. Ça signifie que je peux cesser de te chercher partout et de pleurer devant mon ordinateur lorsque je reviens d'un restaurant japonais où je dîne toute seule. Un homme qui aime. Je veux connaître un homme qui aime. Je veux te trouver, toi, pour avoir enfin la paix, du bonheur dans mon corps, des rires dans mes cheveux, un bras autour de la taille si j'ai peur ou trop chaud, un peu de compagnie, quoi, quand les temps sont durs. Un homme qui aime, avec des poils, du muscle, du bide et un déodorant discret, de la barbe aussi quand il a pas envie de se raser, avec mille choses à partager, le linge sale, l'épais sous les draps, les disques ringards, la collection de harakiri, le nounours de quand il était petit, son vrai sens du bordel, ses expériences sexuelles débridées ou son absence de fantaisie, son jardin secret où je suis interdite de séjour, ses déprimes. On fout, je prends tout ça. Jo, puis Lisa Ekdahl pour terminer de manière féminine ces drôles d'histoires.
Drôles d'histoires avec Fémina.
Et des femmes, il y en avait aussi pour faire ces drôles d'histoires, puisque Françoise Rocha a assuré la technique et c'est Nathalie Schoenberg qui avait choisi toutes les chansons. On vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. Il est exactement 22h.